venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Voilà donc, chers auditeurs, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là pour ce moment de caravane éthiopienne. Nous sommes là pour vous emmener dans cette merveilleuse balade d'édification. Comme chaque mercredi, nous passons vous prendre chez vous directement pour ce moment de caravane éthiopienne, chers auditeurs. J'espère donc que tout le monde est prêt, que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes pour cette bonne balade dans cette caravane qui vient à votre rencontre tous les mercredis à partir de 17h. Merci donc à tous ceux qui s'embarquent dans cette merveilleuse caravane, chers auditeurs. Nous partirons dans un instant et nous serons aujourd'hui dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, chers auditeurs. Notre balade durera à peu près donc une heure de temps et je m'engage à vous ramener chez vous, chers auditeurs. Je rappelle que nous sommes joignables au 05 96 52 64 17 et aussi au 06 96 76 94 90, chers auditeurs. Je ne suis pas seul cet après-midi dans cette caravane. Je veux dire bonsoir à notre hôte, à Karine. Karine, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Ça va bien, Karine?
Ça va très bien, merci.
Par la grâce de Dieu. Alors, Karine, on va commencer par lire donc, ce merveilleux passage du chapitre 13. Nous t'écoutons, Karine.
Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur sa tête, 10 noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et sa grande autorité. Je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était en admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné à la bête l'autorité. Ils adorèrent la bête en disant « qui est semblable à la bête et qui peut combattre comme elle, contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'était pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi des saints. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel du feu sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse.
Voilà Karine, merci beaucoup. Nous allons commencer à essayer d'apporter une explication à ce passage. Chers auditeurs, chers amis, je vous rappelle, chers auditeurs, monsieur, madame, que le livre de l'Apocalypse a cette particularité, Karine. C'est un livre d'images. Aussi numérique. C'est un livre qu'on ne peut pas comprendre seulement avec la théologie humaine, la théologie des hommes. C'est aussi un livre de révélation. Alors, ceci étant dit, on va tenter de comprendre ce qui est dit ici dans le chapitre 13, Karine. Alors, ça commence par le verset 1 que tu as lu pour nous, qu'on va relire et qu'on va expliquer seulement le verset 1. Vas-y.
Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
Amen. Donc l'apôtre Jean commence ici, Karine, en disant « Puis je vis monter de la mer ». Donc quand il dit « puis », cela veut dire que ce passage fait suite directement au chapitre 12. Ça allait d'être rien en disant cela comme ça, parce qu'on dit « après ». Après 12, c'est forcément 13. Mais la particularité du livre de l'Apocalypse, c'est que les scènes ne se déroulent pas d'une manière numérique, comme chapitre après chapitre. Il y a beaucoup de comeback, de flashback, on peut appeler ça comme vous voulez, dans ce livre-là. C'est-à-dire que les scènes ne se déroulent pas forcément dans la séquence numérique de la Bible. Mais cette fois-ci, ce chapitre 13 fait suite exactement au chapitre 12. Donc, Jean, qui est en vision, a vu le dragon qui se manifestait au chapitre 12. Il a vu comment le dragon pourchassait la femme. Et nous parlions hors antenne, Karine, tu me disais que la femme est toujours persécutée.
Toujours.
Mais singulièrement ici, La femme en question du chapitre 12 n'est pas une femme humaine, c'est plutôt une entité. D'accord. C'est quand, d'une manière prophétique, de la femme de la Bible peut symboliser deux choses. Peut symboliser soit l'Église, qui est l'épouse, qui est une femme, ou qui peut être adultère. D'accord ? Et la femme peut aussi être une symbolique aussi du peuple d'Israël, qui est comparée à une épouse également. Donc, dans ce livre de l'Apocalypse, dès que vous voyez femme, une femme, il s'agit singulièrement soit d'Israël, soit de l'Église. Et au chapitre 12, nous voyons que le dragon, rappelez-vous ceux qui ont lu le chapitre 12, que le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter dans le but de dévorer l'enfant mâle. Cette femme, c'était, on a vu la fois dernière, c'était Israël, et l'enfant mâle qui devait naître, c'était le Christ. Et nous sommes maintenant au chapitre 13. On a l'impression que le dragon s'est un peu calmé. Alors, chaque fois que vous voyez Satan se manifester sous forme de dragon dans la Bible, c'est parce que c'est souvent par rapport à Israël. Il n'arrive pas tellement à se manifester comme serpent ancien face à Israël. Il n'arrive pas tellement à se manifester comme diable à Israël. Mais souvent, on voit qu'il se manifeste uniquement comme dragon dès qu'il s'agit du peuple de Dieu. La raison en est simple. La détestation de ce peuple est si grande que le diable ne peut même pas chercher à séduire. Il préfère saccager, il préfère la destruction, il préfère se manifester en tant que dragon. Et chaque fois que le diable se manifeste comme dragon, c'est qu'il ne veut, il ne cherche pas forcément à séduire Karine. Il cherche à détruire, simplement. Alors nous voyons ici, Karine, que Satan, il est dit, puis je vis monter de la mer. La mer dans la Bible symbolise, Karine, les peuples, les nations en mouvement. Donc la mer symbolise le désordre. Mm-hmm. Autrement dit, ici, Karine, la mer est symbole des peuples en agitation, des foules, des masses. Et ces personnes-là sont représentées ici par la mer. Donc à la fin des temps, il y aura une telle agitation dans le monde, une telle pagaille dans le monde, que les conditions seront réunies pour qu'apparaisse un gouvernement, une entité qu'on appelle une bête ici, une entité gouvernementale, mondiale, un gouvernement mondial qui va apparaître. Et ici, l'apôtre Jean voit cette entité gouvernementale comme une bête. Mmh. Amen. N'oublions pas, Karine, que Jean voit les choses telles que Dieu les voit. Oui. Donc ce gouvernement mondial qu'on appelle de nos voeux, en fait, quand je dis on appelle de nos voeux, ce sont les économistes, les politiques qui appellent cela de leurs voeux. Amen. Ils appellent, ils attendent, s'attendent à ça, à ce qu'apparaisse un gouvernement mondial. Je te disais hors antenne que des grands économistes tels que Jacques Attali, justement, eh bien, ils en parlent ouvertement et ils disent que la solution au problème de l'humanité, c'est un gouvernement mondial. Mmh. Amen. Donc, et cette bête va apparaître. Mais Dieu voit ce gouvernement comme une bête. Il n'est pas dit que les hommes verront sur terre une bête qui sort de la mer.
Amen.
Mais c'est une vision prophétique que Jean a. Il voit les choses telles que Dieu les voit. Dieu voit les nations, les peuples en mouvement comme une mer démontée. Amen. Et de cette mer sort une bête, un gouvernement mondial. Continue, Karine, juste après la bête qui avait 10 cornes, etc. Vas-y.
La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité.
D'accord. La bête que je vis, que je sais ici, c'est l'apôtre Jean, il dit « était semblable ». Il ne dit pas « est », mais il dit « était semblable à un léopard ». Et ses pieds étaient comme
ceux d'un ours.
Et sa gueule comme
une gueule de lion.
Alors, il faut comprendre pourquoi ces images reviennent. Je dis reviennent parce que vous trouvez exactement ces mêmes images dans Daniel, chapitre 8 ou chapitre 7. Donc, ces bêtes, le léopard, l'ours et le lion, avait déjà été vu par le prophète Daniel dans ses prophéties. Alors, le léopard représente Alexandre le Grand à la tête des Grecs. Pourquoi un léopard? Parce que, comme l'histoire va nous le dire mercredi prochain, je suppose, Alexandre le Grand a été un conquérant particulier, puisqu'il a conquis quasiment la moitié du monde en l'espace de 11 années, me semble-t-il. Ça a été un puissant, un conquérant hors pair, hors du commun. Il est mort très jeune, on va voir tout ça aussi la prochaine fois. Donc, il essaie représenté ici par un léopard. Le léopard, ça veut dire qu'il y a cet aspect de rapidité. Donc, n'oubliez pas que Daniel voit une bête qui ressemble à un léopard. Autrement dit, le léopard, symbole de rapidité.
Qui a des pieds comme ceux d'un ours.
L'ours est symbole de force et de stabilité. Donc, l'ours nous rappelle l'empire médo-persan, l'empire des Mèdes et des Perses. Donc, Daniel avait vu également dans le chapitre 8 que les Mèdes et les Perses, avec les Darius à leur tête, étaient représentés devant Dieu comme l'ours, un ours qui était un peu bancal, un ours qui était sur les côtés. Sur les côtés, parce que on dit souvent empire médo-persan, parce que c'était un empire à deux têtes, Mèdes et Perses. Mais il y avait une prédominance des Perses sur les Mèdes. C'est pour ça que Daniel a vu l'ours qui était un peu bancal. Donc, il y avait les Mèdes dominaient sur les Perses, mais ils fonctionnaient en binôme. D'accord, Karine?
Oui.
Et il voit que cette bête qui sort de la mer ressemble à l'ours, ressemble aussi à des pieds comme les pieds, ressemble, pardon, à un léopard, et à des pieds comme
les ceux pieds d'un ours.
Et sa gueule est comment?
Une gueule comme une gueule de lion.
Voilà. Donc, le lion symbolise quoi? Je te laisse me dire.
Le lion symbolise la majesté.
La royauté, la majesté, la splendeur. On dit le lion, c'est le roi de la jungle.
Exactement.
D'accord. Amen. Et le lion, dans la Bible, dans la prophétie biblique, dans Daniel notamment, représente Babylone la grande, la splendeur de Babylone, etc. Donc, quelque part, ça nous amène à faire un petit résumé rapidement, Karine. Donc, le gouvernement, le prochain gouvernement mondial qui va se manifester sur la terre et que Jean a déjà vu, va s'installer avec une telle rapidité du léopard, aura la force, la puissance de l'ours, parce que l'ours est quand même assez puissant, un animal très puissant, et aura la majesté, la gloire
du lion.
Parce qu'on dit que lorsque le lion rugit, partout on entend son rugissement, il revendique son territoire. Donc ça va se passer au niveau mondial. Ce sera un gouvernement, le gouvernement à venir. On parle de mondialisation, on parle d'une monnaie unique. On parle d'une seule langue. On voit bien qu'il y a déjà des entités qui précèdent ce gouvernement mondial. Vous avez l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Vous avez aussi...
L'UNESCO.
L'UNESCO. Ça, c'est pour la culture, je crois.
Voilà.
D'accord? Vous avez le TPI, le Tribunal Pénal International. Vous avez des organismes mondiaux où toutes les nations se sont rassemblées. Vous avez les Nations Unies. Quoi qu'ils ne fassent rien en ce moment. Nations Unies. D'accord. Vous avez tous ces organismes qui annoncent déjà un gouvernement unique, un gouvernement mondial.
Éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir.
Toujours sur les 97.3 MHz, chers auditeurs, nous sommes toujours au verset 2. Donc, Karine,
la bête que je vis était semblable à un léopard.
Voilà.
Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion.
Voilà, on a expliqué tout ça. On a expliqué pourquoi les léopards, pourquoi l'aspect de l'ours, pourquoi est-ce que ce gouvernement à venir, ce gouvernement mondial aura tous ces aspects, l'aspect du léopard, l'aspect de l'ours, l'aspect du lion. On a expliqué tout ça. Il est dit ensuite, le dragon lui donna quoi ?
Sa puissance et son trône. Et une grande autorité.
Donc le gouvernement à venir que le monde appelle de ses voeux, en fait, va avoir une telle puissance, mais ça ne va pas être une puissance humaine. Ça ne va pas être une puissance saine, ça va être une puissance diabolique.
D'accord.
Le dragon, on sait, toi tu sais Karine, moi je sais, que le dragon c'est qui ? C'est le
diable.
C'est le diable. Le dragon lui donna ça. Sa puissance, mais encore quoi ?
Son trône et une grande autorité.
Voilà. Donc, il y aura des choses qui vont être conférées, être données à ce gouvernement, mais ça ne viendra pas de la démocratie des hommes, ça viendra d'une intervention satanique. Le diable va accorder aux hommes beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance, beaucoup de gloire et beaucoup d'autorité et surtout une grande puissance monétaire, parce qu'il y a des problèmes qui vont être réglés, n'est-ce pas, les problèmes que nous connaissons, de guerre que nous connaissons, puisqu'on dit que, regardez monsieur Donald Trump, il fait son possible pour mettre la paix entre les Ukrainiens et les Russes, mais la guerre continue dans beaucoup de pays du monde, la guerre continue malgré l'ONU, malgré l'Organisation Mondiale des Nations Unies. La guerre continue. Mais un moment, la Bible dit que les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine s'abattra sur le monde. Donc, cela veut dire que ce que les Nations Unies n'ont pu faire jusqu'à maintenant, il y a un gouvernement mondial qui arrive et qui le fera. Et les hommes auront la paix. Les hommes auront, de dire entre guillemets, un semblant de prospérité financière et matérielle. Les problèmes de violence seront réglés. Parce que plus tard tu verras, et Jean dit qui peut, les hommes adoraient la bête et disent qui peut faire comme elle. C'est parce que cette bête, ce gouvernement, va apporter des solutions. Mais toutes ces solutions-là ne viennent pas de Dieu. C'est dans le but de détruire les hommes, de dominer sur les hommes, que le diable va donner une autorité, sa puissance et une autorité à ce gouvernement, autrement dit à cette bête que Jean voit. Je rappelle que cette bête est un gouvernement mondial qui apparaîtra à la fin des temps. Nous sommes au verset 3, Karine, vas-y.
Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était en admiration derrière la bête.
Alors, il faut bien qu'on explique ça, Karine. C'est Jean qui parle, hein ?
Oui.
Il dit, et j'ai vu une de ses têtes, autrement dit, une partie de cette bête qui est blessée, un empire. Une partie de cette bête, on va dire ça comme ça, qui est
blessée à mort.
Il est dit ici.
Mais sa blessure mortelle fut guérie.
Et toute la terre
était dans l'admiration derrière la bête.
Alors, il faut comprendre ce qui se passe ici. Pour bien comprendre ce qui se passe ici, il ne faut pas oublier que nous parlons d'une bête qui ressemble à un léopard, qui ressemble à un ours et qui a l'aspect
d'un lion.
Donc, mais on sent qu'il manque un quatrième aspect. Parce que ces bêtes-là, rappelez-vous, avaient été déjà vues par Daniel. Oui. Daniel avait vu en réalité l'ours. Il avait vu l'ours, c'était l'Empire perse. Il avait vu le léopard, c'était les Grecs. Il avait vu aussi le lion, c'était Babylone la Grande. Oui. Mais il avait vu un quatrième animal terrible. Rappelez-vous, je ne sais pas si tu te rappelles. Non, il y avait un quatrième animal terrible. Daniel avait vu quatre bêtes, l'ours, le léopard et le lion, mais il avait vu un quatrième animal qu'il ne pouvait pas distinguer. Je veux prendre quand même le passage pour toi, afin que tu puisses bien le comprendre. Alors, pour bien comprendre, expliquer ça, Karine, on va lire Daniel dans chapitre 7. On va essayer d'aller vite. Daniel, chapitre 7, on t'écoute.
Alors, la première année de Bathsheba, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche.
Daniel eut un songe.
Oui.
Le prophète Daniel, hein ?
Oui.
Vas-y, continue.
Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les quatre vents des cieux firent irruption dans la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait
à un ours. On voit l'ours ici. C'est l'empire médo-persan.
Vas-y. D'accord. Et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard.
À un
léopard.
Là, c'est Alexandre le Grand et les Grecs. Continue.
Et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau.
Symbole de rapidité. Il est léopard, donc il est rapide, comme Alexandre le Grand.
Et en plus, il a des ailes.
En plus, il a des ailes. Alors,
c'est ça.
Ouais.
Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort.
Il y avait un quatrième animal
terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait.
Voilà, voilà. Donc les quatre animaux sont là.
Oui.
Mais Jean
ne dit pas à quoi ressemble le quatrième.
Il n'arrive pas à le décrire.
D'accord.
Daniel non plus n'arrive pas à le décrire parce que il a vu un lion. Il a pu décrire que c'est un lion. Il a vu l'ours. Il a pu dire que c'est un ours qu'il a vu. Je parle de Daniel ici. Il a vu un léopard. Il a pu dire que c'est un léopard, même si avec les quatre ailes, ça paraissait plutôt mythologique. Mais là, il voit un quatrième animal qu'il n'arrive pas à décrire.
Ouais.
C'est l'Empire romain.
D'accord.
Puisque après le premier, le lion, qui est Babylone. Après Babylone, il a vu l'ours. Donc, on se rappelle que les Mèdes et les Perses ont vaincu Babylone. Après, Alexandre le Grand a vaincu les Mèdes et les Perses. Mais après ça, ce sont les Romains qui sont arrivés. Le monde a connu quatre grandes monarchies. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Donc si on revient à l'Apocalypse, chers auditeurs, il est dit que effectivement que une des têtes avait été blessée à mort. Et si on se rappelle comment ce qui s'est passé au moment où l'Empire, où les Romains régnaient, le Christ est venu sous le règne des Romains.
Oui.
Quand le Christ est venu, c'est les Romains qui régnaient.
Oui.
Donc un royaume est venu s'établir dans un royaume.
Oui.
Rappelle-toi que l'empereur a dit à Christ, es-tu roi? Et le Christ a répondu, oui, il a dit, je suis roi.
Amen.
Je suis venu dans ce monde. Voilà. Et puis en plus, connais l'histoire. Donc cela veut dire, bien-aimé, que en créole, on dit que des malcrabes peuvent vivre dans le même trou. Donc un royaume, le royaume de Dieu, est venu s'installer dans un royaume romain. Et qui a le dernier mot? Parce que Rome a disparu. Rome s'est écoulée, mais le royaume de Dieu ne cesse de grandir sur la terre.
Amen.
Donc Jean parle d'une blessure mortelle qui fut guérie. Donc quelque part, on comprend par là que la bête, le gouvernement mondial qui apparaîtra, aura non seulement la puissance de l'ours, la rapidité du léopard et la majesté du lion, mais aura la même stratégie que l'Empire romain.
D'accord.
Amen. Puisqu'il voit que la blessure mortelle a été guérie. Quand tu lis Daniel, je dis beaucoup de choses en même temps, mais s'il faut aussi dessus. Ceux qui nous écoutent, par contre, quand tu lis Daniel, tu vois que Nebuchadnezzar avait vu une grande statue. C'est la même chose que les bêtes.
Oui.
Daniel a vu des bêtes, mais Nebuchadnezzar a vu des matériaux. Il a vu des matières. Il a vu l'or, l'argent, les reins, le bronze et le fer.
Oui.
Mais c'est la même chose, en fait. Et il a vu qu'une petite pierre se détachait d'une montagne sans le secours d'aucune main et frappait les pieds de la statue. C'était l'Empire romain. Les pieds de la statue, c'était l'Empire romain, d'argile et mêlé de fer. C'était l'Empire romain. Donc la petite pierre a frappé les pieds de la statue, a frappé l'Empire romain, a blessé l'Empire romain. La statue s'est écroulée.
Entièrement.
Donc, c'est là, de là qu'on peut expliquer la blessure mortelle que tu vois au, au verset
3.
Et 3 de l'Apocalypse. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il faut reprendre, faut lire plusieurs fois pour bien comprendre. Au verset 4, nous t'écoutons.
Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre comme elle, contre elle.
Alors, et donc, les « ils », c'est qui? Ce sont les hommes.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent.
Oui, ils adorent le dragon.
Le dragon, c'est Satan.
Oui.
Les hommes adorent
le dragon.
Le dragon, pourquoi?
Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle.
D'accord. Donc, on voit que les hommes arrivent au point. Alors, il est évident qu'on ne verra pas la fin des temps des hommes qui se prosternent devant un gouvernement. Amen. Mais il y aura tellement d'éloges pour ce gouvernement. Il y aura tellement d'approbation que ça rime avec adoration. Il y aura tellement de... Vous savez que lorsque on dit j'adore mon épouse, la personne n'est pas assise, prostée devant son épouse en train d'adorer.
Oui.
Mais il y a tellement d'éloges, il y a tellement de satisfaction, de satisfaction. Il y a une telle... On est comblé par cette personne. On dit que j'adore cette personne-là. C'est une manière de parler. Et bien exactement, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Ce gouvernement va apporter beaucoup de solutions aux problèmes que connaissent l'humanité. Et les gens vont tomber, vont être ébahis, vont être satisfaits, vont être contents au niveau mondial de ce gouvernement qui aura reçu, je le rappelle, la puissance et l'autorité du dragon. On poursuit.
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois.
Alors, il est dit qu'il, c'est qu'ici, c'est la bête.
Amen.
Okay. Il lui fut donné. On comprend bien que cette bête agit parce qu'on lui permet d'agir.
D'accord.
Quand il est dit, car il n'a plus de reprise, il lui fut donné une bouche. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cela veut dire que Dieu le permet.
D'accord.
Dieu, parce qu'il faut comprendre une chose. Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu.
Amen.
Parfois, Dieu peut permettre des choses qui peuvent nous choquer, peuvent nous attrister. Mais c'est toujours en arrière-plan, toujours l'amour.
Amen.
Et la liberté de choix. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui va t'emprisonner dans un paradis. Parce qu'un paradis où il n'y a pas de porte de sortie, ce n'est pas un paradis.
Amen.
C'est une prison. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, toujours, il va donner à l'homme le choix de choisir Dieu, de choisir autre chose.
D'accord.
Alors, quand le diable, la bête, cette entité gouvernementale, reçoit la permission d'agir, c'est parce que Dieu lui permet d'agir pour que les hommes puissent choisir délibérément entre le bien et le mal. C'était le but de la présence de l'arbre du bien, du fruit de la connaissance du bien et du mal en Éden.
Mmh.
S'il n'y avait pas ça, est-ce qu'on peut dire qu'un amour forcé, un amour où on n'a pas le choix, est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable amour? Il faut que... Tu ne vas pas prendre un bâton pour obliger ton mari à t'aimer. Ou bien il t'aime, ou bien il ne t'aime pas. Donc, Dieu permet des choses pour que nous puissions faire un choix libre et un choix éclairé. J'ai eu le choix entre mes périodes de zouk, de vie abominable, et Dieu. J'ai fait un choix. Dieu n'a pas enlevé, quand je suis né, il n'a pas enlevé devant moi le zouk, le vol, la vie de débauche, il n'a pas enlevé tout ça pour moi. Il a laissé tout ça, il a permis cela, permis que ça vienne à moi, pour que je puisse faire mon choix librement. Par amour pour lui. Amen. Et c'est exactement l'explication qu'on peut apporter à ce verset 5. Il lui fut donné d'agir pendant 42 mois. Alors, il faut comprendre que à ce moment-là, l'église n'est pas là. Nous sommes dans la période qu'on appelle la grande tribulation. Au verset 5, nous sommes dans la période qu'on appelle la grande tribulation. L'église n'est pas là. Et la période 42 mois revient souvent dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Elle correspond à la période de la grande tribulation qui va durer 1260 jours. Exactement 42 mois, où il y a un thème que Daniel emploie et que Jean emploie aussi pour définir cette période-là. La période, c'est soit 42 mois, soit 1260 jours, soit un temps, des temps, la moitié d'un temps. Quand vous voyez ces trois terminologies-là, ça fait écho à la période de la grande tribulation, où l'église sera enlevée. Alors, que j'explique rapidement, c'est pas le but, ce que c'est que la grande tribulation. La grande tribulation, c'est lorsque l'église de Dieu sera enlevée sur terre et le monde sera livré, n'est-ce pas, entre les mains de l'Antéchrist. La bête que tu vois apparaître là, elle apparaîtra quand l'église ne sera plus là. Et je veux te montrer justement un verset afin que, justement, pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Alors, je vous disais à l'instant, chers auditeurs, que cette période, le verset 5, eh bien, correspond à la période où l'Église sera enlevée. Parce que tant que l'Église n'est pas enlevée, Satan ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas installer le gouvernement mondial. Il ne peut pas envoyer l'Antéchrist. Bien sûr, il y a eu des précurseurs de l'Antéchrist, des Antéchrists qui sont venus pour préparer le chemin. Mais le véritable, l'homme d'iniquité, l'homme impie, qui est l'Antéchrist en personne, ne peut pas encore venir tant que l'Église est ici-bas. Et nous allons lire un passage qui va le confirmer, Karine. Nous t'écoutons.
Alors, il s'agit de 2 Thessaloniciens 2, verset 6, qui dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. »
Amen. Et il parle de l'Antéchrist ici. Il dit que, et vous savez ce qui le
retient,
afin qu'il n'apparaisse
que lorsque le moment sera venu pour lui.
Voilà. Donc, comme nous sommes, Karine, la lumière du monde, imaginez que tu sois dans cette salle, Karine, là où nous sommes, et que j'éteins la lumière un instant. Tout de suite après, les ténèbres prennent la place.
Oui.
Mais tant que la lumière est allumée, il ne peut pas faire noir.
Non.
Donc les deux peuvent ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'Antéchrist, qui est l'incarnation du mal, qui est le fils de Satan, ne peut pas régner sur terre en même temps que l'Église est sur terre.
Amen.
Il lui faut des ténèbres pour régner. L'Antéchrist a besoin d'un environnement ténébreux total pour régner. Il ne veut pas un peu de lumière, de luminant qui fume encore, ça le dérange. Je me rappelle quand j'étais à l'armée, rapidement, en Guyane française, on était en combat de nuit, il ne fallait pas fumer le soir, parce qu'on nous disait qu'en temps de guerre, qu'un mégot de cigarette peut se voir à des kilomètres à la ronde quand il fait nuit. Donc, un seul chrétien sur terre, pendant la grande tribulation générait considérablement l'Antéchrist. Donc, le chapitre 3, c'est 5 que nous voyons en ce moment, ces choses vont se dérouler lorsque l'Église ne sera pas là. Tout le monde a compris, j'espère.
Amen.
Nous passons au verset 6.
Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel.
D'accord. Elle ouvrit quoi ?
La bouche.
D'accord. Elle ouvrit sa bouche
pour proférer des blasphèmes contre Dieu.
Donc elle ici, c'est toujours la bête qui monte de la mer. Hein.
Oui.
Elle ouvre sa bouche. Donc il faut bien comprendre que Jean est en esprit. Et quand il est dit que la bête ouvrit sa bouche pour blasphémer. Alors n'oublie pas que cette bête n'est pas une bête qu'on trouve dans la forêt. C'est une entité gouvernementale.
Oui.
Quand il est dit que cette bête ouvre sa bouche pour faire des blasphèmes, ce sont les lois qui vont être votées.
D'accord.
Ce sont les lois qui vont être votées. D'accord. Et tu as déjà un aperçu de ces lois qui sont votées. Au niveau de l'Assemblée nationale, en métropole, des lois qui sont votées pour légaliser des choses que Dieu condamne.
Amen.
On appelle mal bien et bien mal.
Amen.
Donc, je regardais récemment dans les journaux télévisés un ministre qui vantait la France d'avoir été parmi les premières nations à légaliser telle et telle chose que tu connais.
Oui.
Donc, la France, au niveau de l'Europe, en Occident, la France est championne dans certains domaines, mm-hmm. pas dans la technologie, mm-hmm. pas dans le médical,
non.
pas dans la science,
non.
mais dans certains domaines que la Bible définit comme étant un domaine de débauche.
Amen.
La France est en tête.
Oui.
Regardez la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et
voilà.
vous comprendrez tout. Même le président américain qui n'est pas forcément un fervent défenseur de l'évangile, bien-aimé, eh bien, était choqué par cette cérémonie d'ouverture à tel point que certaines chaînes américaines ont refusé de diffuser la cérémonie d'ouverture. C'était, on va le dire franchement, un blasphème.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc, la bête va ouvrir sa bouche et va proférer des paroles de blasphème. Comprenez là qu'il s'agit là d'autres lois qui seront votées encore pires que celles qu'on connaît là en ce moment. J'écoutais récemment un député qui disait qu'il faudrait qu'on interdise la Bible. Parce que en fait, ça va y arriver. Et parce que c'était déjà le cas. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible était déjà interdite il y a des années auparavant. Parce que, en fait, la Bible interdit des choses que le gouvernement a légalisées. Et le gouvernement a beaucoup de mal avec ça. La Bible condamne ça, dit que c'est une abomination. Vous lisez, vous savez de quoi je parle déjà. Hein. Et l'homme l'a légalisé. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, on continue. Donc, la bête qui ouvre la bouche et qui profère des blasphèmes contre Dieu, il faut comprendre là que ce sont des lois qui vont être votées, qui vont être un mépris outrancier de la parole de Dieu.
Amen.
Au verset 7.
Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute
D'accord.
langue, toute nation.
D'accord. Là, tu vois encore le thème « il lui fut donné
oui. »
qui revient. Donc, Dieu le permet. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Alors, quand dans l'Apocalypse, tu vois qu'on parle des saints, alors, il s'agit de deux types de saints. Soit d'Israël ou soit du peuple de Dieu,
D'accord.
de l'Église. Okay. Ici, singulièrement, il s'agit d'Israël. Pas des chrétiens. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, il n'y aura pas des chrétiens sur terre, ce que nous appelons chrétiens.
Oui.
Donc, ici, il s'agit d'Israël. Eh bien, ils n'ont pas voulu du Christ. La Bible dit que le Christ est venu chez les siens, chez les juifs, ils l'ont rejeté. Mais là, Israël devra passer par la grande tribulation pour se convertir. Et ils seront des martyrs à ce moment-là. La Bible parle d'une grande foule de martyrs. Ce sera le peuple hébreu qui va connaître, je dirais même, à nouveau une période de martyrs. Voilà pour nous ce verset.
Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation.
Donc ça va, c'est très clair. Cette bête qui apparaît là, qui sort de la mer, va dominer sur toute la terre, sur la terre entière. Une domination globale. Je ne sais pas si tu as entendu parler du New Age, le Nouvel Âge, ou bien le Nouvel Ordre Mondial. C'est ça.
D'accord.
C'est exactement ça qui va se passer. Il y aura un nouvel ordre mondial, on appelle ça comme aux États-Unis, le New Age. Donc, on continue.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.
Amen. Et pas une seulement. Hein.
Et tous les habitants de la terre
l'adoreront.
Amen.
Amen. Attention. On précise qui va adorer. Ceux
dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.
Amen. Alors, il faut comprendre, Karine, qu'il y a dans le ciel plusieurs livres.
Amen.
Il y a un livre de souvenirs, par exemple,
oui.
où nos actions sont répertoriées. Amen. C'est comme un disque dur. Tout ce que tu fais est écrit dans ce livre-là. Et ce livre-là sera ouvert devant Dieu pour te récompenser ou pour ne pas te récompenser. Alors, il y a aussi un livre de vie sur lequel, comme son nom l'indique, c'est un livre de vie. Alors, il faut faire attention.
Oui.
Il faut que j'explique ça bien. S'il faut, je peux revenir dessus. Mais le but n'est pas de parler du livre de vie ce soir, mais je veux juste le survoler. Alors,
d'accord.
dans ce livre, tous les hommes qui sont nés, qui vont naître, sont inscrits dans ce livre. Tous les êtres humains sont inscrits dans ce livre.
D'accord.
À l'origine, autrement dit, à l'origine, Dieu a mis tous les hommes au bénéfice du salut, sauf deux personnes.
Qui sont ?
Qui sont ? Judas et l'Antéchrist. Parce qu'ils sont nés pour la perdition.
D'accord. Oui, oui.
Ces deux-là font exception à la règle.
D'accord.
Mais tous les hommes sont mis au bénéfice du salut. D'accord. Et c'est lorsque les hommes, d'une manière irrémédiable, refusent la grâce de Dieu, que Dieu efface leur nom. Puisqu'il est parlé de noms qui vont être effacés. Pour effacer un nom sur un tableau, il faut qu'au préalable que le nom soit écrit.
Mais oui.
Tu n'effaces pas un nom qui n'est pas écrit.
Mais non.
Et Dieu dit à Moïse que, rappelle-toi, Moïse a dit à Dieu, efface mon nom de ton livre.
Oui.
Et Dieu a dit à Moïse, j'effacerai le nom de ceux qui ont péché contre moi. On va prendre un passage pour être plus clair, si tu veux.
Pourquoi pas.
On va essayer d'aller vite. Hein. Alors, on va prendre ce passage, Karine. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît.
Alors, le livre dit... Pardonne maintenant leur péché.
Non, il faut nous dire, c'est Exode.
Ah oui. Exode 32, versets 32 à 33.
On t'écoute.
Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
Voilà.
Comme je te dis, Karine, la logique voudrait... que pour effacer un nom, ça veut dire que le nom a été écrit au préalable.
Mmh.
Et ce qui nous amène à penser et à dire avec justesse que tous les hommes sont mis au bénéfice du salut. Le nom de tous les hommes, Hitler y compris, tous les hommes sont inscrits sur le livre de vie au départ. Mais c'est quand l'être humain refuse d'une manière irrémédiable et définitive la grâce de Dieu que Dieu efface son nom.
D'accord.
De son livre. Donc, mais je précise qu'il y a deux noms qui n'ont jamais été inscrits sur son livre de vie, c'est le nom de Judas, qui est né pour la perdition. La Bible est claire dessus, qui est né pour la perdition, et le nom de l'Antéchrist, qu'on ne connaît pas son nom, mais qui est aussi né pour un but, qui n'est pas pour être sauvé, qui est né pour la perdition aussi. Donc on continue, Karine, toujours au chapitre 13 de l'Apocalypse.
Alors, le verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si... quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.
Voilà, donc là c'est une évidence. Hein? C'est si quelqu'un tue par l'épée, autrement dit en créole, ça aussi, mais c'est ça au cas
récolté.
Donc si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ce sont des lois qui sont aussi valables que les lois naturelles, que la loi de la pesanteur. Tu prends une clé sur le bureau, tu le lâches, la clé est attirée vers le bas automatiquement parce qu'il y a la loi de la pesanteur. C'est exactement pareil. Ça aussi, mais c'est ce que tu récoltes, ce que tu sèmes. Tu le moissonnes.
Amen.
Donc il faut que les gens comprennent ça. Ce qu'on sème, on le moissonne. Si tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Si tu trompes ta femme, ben c'est la mission qui va t'arriver. Je vois que j'ai des amis et bien-aimés qui ont pris la femme de quelqu'un. Eh ben tôt ou tard, c'est même pas arrivé. À mon promadomio. Voilà. Donc ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est un peu saugrenu tout ça, mais c'est à peu près ça.
Okay.
Amen. On va au verset 11. Et c'est important, le verset 11. Là, c'est une deuxième partie. Là, on a vu une première bête, Karine, qui monte de la mer. Mm-hmm. Rappelle-toi que cette première bête-là, elle a ramené de l'ordre.
Oui.
Elle a ramené la stabilité.
Oui.
Elle a arrangé les choses.
Oui.
Autrement dit, maintenant, on va voir une autre bête qui apparaît, qui ne pouvait pas apparaître
sans la première.
Sans la première.
Ok.
Ces deux bêtes marchent de concert, mais l'une après l'autre. Vas-y,
alors, écoute. Là, on va parler de la bête qui monte de la terre.
Mmh.
Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon.
Amen. Cette bête-là est particulière. Elle est différente de la
première.
C'est bien une bête,
oui,
mais elle est différente.
D'accord.
Donc, qui dit une bête dit gouvernement.
Oui.
Ce sera une puissance religieuse, une entité mondiale au niveau religieux.
D'accord.
J'ai lu un livre récemment qui s'appelle l'écuménisme. Mm-hmm. On parle beaucoup de cuménisme, c'est-à-dire que le rassemblement de toutes les religions.
D'accord.
Il y a même des chrétiens qui prient pour ça, mais je crois que c'est une folie de penser qu'un jour tous les croyants seront unis. Mm-hmm. Ce n'est pas vrai. Amen,
amen,
amen. C'est même un piège pour l'humanité.
Amen.
Amen. Parce que la Bible parle d'une bête qui monte de la terre. La terre, oui, ici est symbole des choses ordonnées. D'accord. En premier lieu, on avait vu que la première bête montait de la mer, du désordre. Maintenant, la première bête a mis de l'ordre. Et maintenant, apparaît la seconde bête qui monte de la terre. La terre ici, et Karine, est symbole de l'ordre. D'accord. Amen, mes aimés. Cette seconde bête, elle est particulière. Elle avait deux cornes, Karine,
semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon.
Donc, c'est une bête qui a l'apparence spirituelle, mais en réalité qui parle comme un dragon.
D'accord.
Parce qu'en fait, on va le voir plus tard, le dragon est derrière.
D'accord, d'accord.
Il ne dit pas, il dit pas que cette bête est un dragon, mais il parle comme un dragon. Okay. Cela veut dire, bien aimé, que lorsque la, on va le voir plus tard, lorsque la seconde bête parle, en fait, quand au niveau prophétique, quand on parle de parler, on parle de libérer des esprits. D'accord. Donc, quelque part, il y a des entités spirituelles qui ressemblent à des agneaux, qui ressemblent au Christ, et bien, mais qui vont libérer des paroles, mais ce sont des esprits mauvais qui seront derrière ces paroles-là.
D'accord.
Et l'apôtre Jean, justement, beaucoup plus tard, voyait le faux prophète qui parlait, et de sa bouche sortaient des grenouilles, des esprits impurs qui parcouraient toute la terre. Rappelle-toi, Karine, que le Christ disait aux apôtres, les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
Amen.
Donc, dans la parole, il n'y a pas seulement une sonorité, mais il y a des esprits qui sont libérés.
Amen.
Donc, cette entité qui monte de la mer,
qui monte de la terre.
De la terre, pardon. Mais tu suis, gloire à Dieu. Ce sera un conglomérat de fausses prophéties, de faux pasteurs, de faux apôtres, de fausses choses,
d'accord,
mais qui auront l'apparence de l'agneau.
D'accord.
Ce sera l'antichrist qui va se manifester.
D'accord, okay.
D'accord, on continue.
D'accord. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
D'accord. Au verset 12, on voit qu'elle s'occupe de tout ce qui est spirituel et religieux. Cette bête-là a pour un objectif de répondre aux besoins de l'esprit de l'homme. Je m'explique. Parce que la première bête apparaît, elle règle les problèmes d'ordre matériel.
Okay.
Le diable veut contrôler le monde entier, totalement, intégralement. Il ne peut pas contrôler l'homme intégralement s'il ne contrôle pas l'esprit de l'homme.
D'accord. Okay.
Si tu veux contrôler quelqu'un totalement, il faut contrôler son esprit. Tant que tu ne contrôles pas son esprit, tu ne contrôles pas un être humain. Parce que le corps physique n'est que matière, n'est qu'une enveloppe. Si tu ne contrôles pas l'esprit de quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu contrôles la personne. Le diable sait que en envoyant la première bête qui sort de la mer, il répond sournoisement à des problématiques d'ordre matériel. Il va contrôler le monde matériel. Il va contrôler l'économie du monde, le social, tout ce qui concerne l'arithmétique, on va le voir tout à l'heure, le numérique, très contrôlé par Satan. Mais le diable sait qu'il lui faut une entité spirituelle pour contrôler l'esprit de l'homme. Parce que si l'esprit de l'homme lui échappe, c'est grave pour lui. Parce que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit est toujours attiré par les choses divines, par les choses de Dieu. Or, le diable va apporter du divin, entre guillemets, à l'homme. Parce que le diable sait que l'homme a besoin du divin. Il y a une partie en toi, Karine, il y a une partie en nous qui a force, qui a besoin, un grand besoin du divin. Ton corps a besoin de la nourriture solide, mais ton esprit a besoin du divin.
Amen.
Et le diable sait qu'il y aura cette soif en l'homme du divin.
Amen.
Il va tenter de répondre à ce besoin en trompant les hommes, en envoyant une entité religieuse qui est fausse.
Amen. Alors, je continue. Le verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Amen. Donc on voit qu'il y a un besoin de miracle.
Amen.
Parce qu'il y a un besoin de, vous voyez autour de vous comment on a soifé de miracles, de prodiges. Moi j'en ai besoin. Hein.
Amen.
On a tous besoin de prodiges. Moi, brisez-moi, 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 brisez-moi désir saint à prime abord, mm-hmm. qu'un désir saint de voir des prodiges. Bon, mais il faut savoir une chose, le diable est au courant de ça.
Amen.
Amen. Il va envoyer une entité religieuse, il y aura une prolifération de miracles.
Amen.
Amen. Mais de faux miracles.
Amen.
Et la seconde bête va se charger de faire de faux miracles, de faux prodiges et
d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à voilà. la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait quand même.
Voilà. Donc les hommes seront gavés de miracles, mais de faux miracles.
D'accord.
Le piège est double. Mm-hmm. Le piège est double. Comprends-moi bien, Karine. Déjà, le faux miracle trompe l'homme.
Mm-hmm.
Attire l'homme vers Satan, vers l'autre.
Ok.
D'accord. Mais le faux miracle a un effet pervers sur les chrétiens.
Ok.
C'est qu'à force de voir du faux, mm-hmm. tu finis ne plus croire au vrai.
C'est vrai.
Mais c'est vrai, Karine.
C'est vrai.
Karine, à force de voir prophétie, dit que bon Dieu qui faire si un moment, et que se passe.
Mais je crois plus.
Eh ben, tu ne crois plus parce que tu vois que c'est parce que tu as reçu de fausses choses.
Mm-hmm.
On t'a dit des choses qui sont fausses.
Amen.
Et le but, c'est quoi? C'est pas de te faire devenir païenne, de te faire devenir incrédule, un mm-hmm. chrétien incrédule, qui ne croit plus.
Okay.
Parce que le faux miracle détourne les hommes de Dieu.
Mm-hmm.
C'est vrai, mais le faux miracle atteint l'église de telle sorte que l'église devient une église incrédule.
Mmh,
la Bible dit que Dieu a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois.
Crois. Amen.
Voilà, parce que nous devenons incrédules, parce que le faux nous pousse à l'incrédulité.
Amen.
Et après l'incrédulité, il y a bien sûr autre chose,
amen,
de plus pernicieux, de plus catastrophique.
Amen.
Amen.
Le verset 15, mmh. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués.
Mmh.
Verset 16, elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
Et elle fut que, la bête toujours,
oui.
elle va, la seconde bête va aider à l'établissement de la marque de la bête.
D'accord.
Alors, il est certain, Karine, que tu ne verras pas des gens se balader avec une marque sur le front et puis une marque sur le main. Nous sommes en esprit. Jean est en esprit.
Mm-hmm.
Elle voit que la bête va faire de sorte que les habitants, les grands, les petits, esclaves et libres, pardon, reçoivent une marque sur leur main et sur le front. Donc on va essayer d'expliquer la localisation de cette marque. Et après, on parlera de la marque. Puisque après, dans le verset 17, je crois, on va commencer à parler de la marque, il me semble.
Amen.
Alors, la marque sous la main veut dire que quelque part, nos actions seront mmh. définies en fait par la bête.
D'accord.
La marque sous la main veut dire que nos actions seront définies par la bête.
D'accord.
La bête aura son droit de regard sur nos actions.
D'accord.
Pour ne pas dire, la bête sera l'instigatrice de nos actions.
D'accord.
Sera la pourvoyeuse de nos actions.
D'accord.
Aussi de nos pensées sur le front.
Mmh.
Symbole de pensée.
Mmh.
Qu'est-ce qui se passe dans nos jours? On est en train d'apprendre à nos enfants d'accepter à l'école. Excuse-moi.
Je comprends.
D'accord. Mmh. D'accepter l'inacceptable.
Oui.
J'ai vu ce qu'on apprend à certains enfants à l'école primaire.
Mmh.
Et je disais hier soir dans l'étude biblique que de mon temps déjà, on nous apprenait à l'école des choses qu'on ne devait pas apprendre aux enfants. Et ça fait des années que je ne suis plus à l'école.
Mmh.
Donc les choses ne sont pas allées en s'améliorant.
Mmh.
Les choses qui sont enseignées aux enfants sont de l'ordre d'une perversité incroyable.
Oui.
Je ne dis, même pas à l'antenne ce qu'on apprend à nos enfants
non,
à faire.
Ça.
D'accord. Donc ça veut dire, bien aimé, qu'on va essayer de, qu'est-ce qu'on peut dire, programmer nos enfants,
oui.
les condenser,
oui. Oui, c'est ça.
Les
c'est
paramétrer.
Ça. Voilà. C'est
on va ça. Agir sur leur pensée, sur leur manière de penser.
Mmh.
Amen. La marque sur le front veut dire ça.
D'accord.
On va tenter de condenser nos pensées. Amen. Et nos actions. Marque sur la main, marque sur le front. On continue. Verset 17.
Et ce, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Amen. Voilà. Donc, cette situation va arriver de telle sorte, il y aura un système, Karine, mm-hmm. qui sera mis en place, un système numérique. On a mm-hmm. compris ça, parce oui, que oui. le nombre de son nom. Donc, système numérique qui est déjà prêt, hein, qui est déjà tout prêt, qui sera mis en place, on ne pourra ni acheter, ni vendre. Et quelque part, je me plais à penser que pendant le Covid, ils ont testé ce système-là.
Tu penses ?
Oui, je suis persuadé. Ils ont testé ça avec les codes barres, avec les mm-hmm. codes, le QR code, etc. Ils ont mm-hmm. testé ce système-là. Mm-hmm. Et à un moment, on, pour entrer dans un magasin, il fallait le QR code pour entrer dans un magasin. On ne pouvait pas acheter sans ça. Donc, c'est une préfiguration. Bien mm-hmm. sûr, ce système sera beaucoup plus élaboré. Mm-hmm. Parce qu'on parle des puces RFID, je crois. Mm-hmm. Les petites puces sous-cutanées. Mm-hmm. Ça, c'est déjà là. Il y a mm-hmm. beaucoup de pays où la puce sous-cutanée, sous la peau, sous la main, est déjà
en place.
Oui. Il y a longtemps. Oui. Donc, on voit déjà des choses qui se mettent en place. Et plus le temps, on approche du temps de la fin, mieux on comprendra les prophéties de la fin des temps. D'accord. Parce que j'ai lu certains livres qui datent de peut-être de 20-40 ans où l'auteur expliquait l'Apocalypse, mm-hmm. mais je voyais qu'il n'avait pas de l'avance, mais il s'est trompé parce qu'en fait, ça fait plus de 20 ans qu'il avait expliqué certaines choses, mais de nos jours, on voit l'ampleur du numérique que le numérique mm-hmm. occupe de nos mondes, mm-hmm. on peut mieux comprendre le système qui est en train d'être mis en place pour contrôler l'espèce humaine.
Amen, amen.
Karine, nous sommes déjà contrôlés.
Oui, ah oui.
On sait où nous sommes.
Ah oui.
On nous suit à la trace.
Ah oui.
Bientôt, on ne pourra rien faire, ni acheter, ni vendre.
Ni vendre.
Voilà, c'est clair.
On ne peut déjà pas aller dans un restaurant sans avoir un smartphone pour pouvoir avoir accès au menu.
Voilà.
Ne serait-ce que ça.
Et sur les bateaux, des bateaux croisières, c'est déjà le cas.
C'est ça. Le dernier verset, le verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
C'est ici la sagesse, d'accord ?
Oui.
C'est ici la sagesse. On ne peut comprendre ces choses que par la sagesse.
Mm-hmm. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Mm-hmm. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
Amen. Alors, il y a toute une panoplie d'explications, d'interprétations à la va-vite, hein, tout ce que tu veux sur ce nombre-là, 666. Alors, il faut que je vous dise, chers auditeurs, je ne veux pas entrer dans les spéculations par rapport à ce nombre-là, mais on est sûr de certaines choses qu'on peut avancer sans aucun risque de nous tromper. Mm-hmm. Ça n'a rien de Dieu, oui. ça vient des hommes, c'est Merci. Certain. C'est okay. un nombre d'hommes.
Oui.
Et c'est 6. 6, 6. Donc, on sent que ça patine pour arriver au 7. Parce que le 7, c'est le chiffre de Dieu. Et ça n'arrive pas à 7, ça fait 6, 6, 6. Donc, le chiffre, c'est le nom, le 6, c'est le chiffre de l'homme et de Satan. Mmh. Donc, dans ce chapitre-là, on nous met, pour résumer, en présence de deux bêtes, l'une qui monte de la mer et l'autre qui monte de la terre. Mmh. Donc, un gouvernement économique et aussi une entité religieuse qu'on appelle ultérieurement dans la Bible, on le verra une autre fois, qui s'appelle le faux prophète. Mmh. Donc, quand il est parlé du faux prophète, parce qu'il y a des faux prophètes, mais quand la Bible parle du faux prophète, c'est particulier, il s'agit d'une entité religieuse qui va faire la promotion du diable dans le domaine spirituel.
D'accord.
Amen. Amen. Et qui va s'occuper de tout ce qui est spirituel, mais de la part de Satan, de la part du diable.
D'accord.
C'est une entité religieuse qui sera mandatée par Satan, par le dragon, pour opérer des prodiges, pour opérer des miracles et pour s'occuper à ramener tous les humains, tout ce qu'ils trouvent, à adorer donc les bêtes et à adorer le dragon, parce que le dragon a donné une telle autorité aux bêtes, à UX, aux bêtes.
D'accord.
Karine, j'espère que ça n'a pas été trop laborieux.
Non, ça a été très simple à comprendre.
D'accord.
Très clair.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Bonne soirée.
Et on espère te retrouver une autre fois avec nous.
Oui, très bientôt.
Pourquoi pas ? Ça me fait plaisir de vous avoir, de t'avoir eu dans la caravane éthiopienne. Donc, chers auditeurs, Dieu vous bénisse. Et puis maintenant, on vous ramène chez vous.
Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de notre balade théologique dans la caravane éthiopienne.
Nous espérons que ce moment a été utile pour votre édification. Toute l'équipe de Radio FM Espoir se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée à l'écoute de nos programmes.
Alors, à mercredi prochain pour une nouvelle balade dans la caravane éthiopienne. Daniel viendra vous chercher chez vous à la même heure, c'est-à-dire 17h, heure Martinique.
Nous vous ramenons comme convenu chez vous et vous disons à très bientôt. N'oubliez pas de partager ce moment avec vos parents, amis ou frères et sœurs en Christ. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 05 96 52 64 17.